Les choses vont très vite. 418-971-1011. Merci beaucoup aux auditeurs qui nous ont partagé leurs craintes par rapport au futur, que ce soit leur futur ou encore le futur des enfants.
Il y a beaucoup de gens qui sont dans ta gang de craintes ce matin.
Oui, oui, mais tu vas voir, s'il y a quelque chose qui arrive dans notre sang quand on a des enfants qu'on n'avait pas
sûr.
Avant.
Moi, je parle comme femme indépendante, célibataire.
Tu sais, je parlais avec une grand-mère de 100... Je veux pas la vieillir, elle va me tuer, mais je pense que c'est 101 ans ou 102 ans, OK?
OK.
Puis elle me disait que même à 101 ans, 102 ans, ses enfants ont 60, mettons 78, 75 à peu près, puis elle a peur pour leur avenir.
Ben oui, mais quand tes parents exact. Toute ta vie, là,
mais
normal.
Ça vient dans notre sang, puis on sait pas d'où ça vient. J'imagine que la nature est faite comme ça.
Mais c'est une bonne nouvelle. Je préfère des parents qui s'inquiètent toute leur vie que des parents qui s'en sacrent.
Ouais, c'est ça. Maintenant, faut que tu décroches, par exemple, là.
Ouais.
Mais parce que tu peux pas tout gérer leur vie, c'est à eux autres de gérer leur vie, mais n'en demeure pas moins que tu t'inquiètes tout le temps
c'est
pour tes enfants. Hey, vous avez des choses à nous dire, c'est le 88-971-1021, qu'il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis, ou encore vous voulez participer à l'émission, vous avez des questions pour notre prochain invité, ça fonctionne par texto. Allons la rejoindre tout de suite, c'est pas la première fois que vous l'entendez, mais je sais que vous l'appréciez parce que vous m'en parlez souvent, c'est Maude Bouchard qui est neuropsychologue spécialisée dans le sommeil. Salut Maude! Très content de t'avoir encore avec nous ce matin. Beaucoup de boulot dans ton travail. Dans le fond, tout le monde dort. Fait que toute ton étude de marché était bonne. Tout le monde dort.
Pas pire, hein?
T'es une femme d'affaires accomplie. C'est incroyable.
Pas pire quand même, oui.
Félicitations pour ton choix. Tu manqueras jamais de travail. Le sommeil, c'est ça touche tout le monde. Puis Audrey, pendant la pause, t'étais avec nous. Puis tu l'as entendu manquer de mourir en toussant. Puis il y a Marc Hamilton, qui est microbiologiste, Maude, qui est un de nos collaborateurs, qui m'a dit dans un podcast que je faisais avec lui le soir, « Yann, les gens pensent que la grippe, là, tu peux guérir ça en allant faire du sport. Les gens pensent que la grippe, tu peux guérir ça en sortant dehors. »
En prenant des pilules.
Puis ce qu'il disait, c'est que la grippe, ça se guérit en restant à la maison, ça se guérit en dormant, en te reposant, puis ton corps va faire le travail. Parce que si tu fais du sport au travers de ta grosse grippe, même si tu as l'impression que ça va mieux pendant un certain temps, tu épuises ton corps, donc ton corps ne sera pas à combattre le fameux virus qui est à l'intérieur de toi. Maude, c'est si simple à comprendre. Pourquoi personne l'applique, ça? Pourquoi personne reste à la maison quand ils sont malades?
On a de la misère à faire ça, hein?
Ben oui, on a de la misère.
C'est tous les humains qui se retrouvent devant certains choix, puis on se dit, ah, ça doit pas être productif de me reposer, ça doit pas être productif de dormir, mais effectivement, quand on est malade, et même pour prévenir de tomber malade, de se reposer, de dormir, ça fait du bien. D'ailleurs, quand on est malade, hein, on le ressent que notre corps a besoin de plus de sommeil, ça se peut que vous dormiez plus,
ouais.
On le sent.
Puis on essaie de compenser des fois avec le café ou encore les boissons énergisantes. J'imagine qu'il n'y a rien de pire. Hey Maude, aujourd'hui, on se concentre sur le sommeil des enfants. Est-ce que tu as des patients qui sont des enfants?
Non. Donc, nous, à la clinique à Lyon, on travaille avec les adultes de 18 ans et plus. Par contre, on travaille beaucoup avec les parents. Donc, on parle du sommeil des enfants. Et il y a aussi, partout au Québec, hein, il y a des psychologues, des neuropsychologues et des experts dans le sommeil des enfants qui peuvent aussi accompagner là, les gens qui ressentent le besoin d'avoir un accompagnement pour le sommeil de leurs enfants.
Ouais. Quand j'étais jeune papa, j'aurais aimé lire un livre, tu sais, « Jeune papa pour les nuls », pour m'expliquer comment ça fonctionne, les enfants, comment il faut que tu échanges, puis les heures de sommeil, les boire et tout ça. Leur mère était quand même assez bonne là-dedans, puis moi, j'essayais de l'appuyer là-dedans au travers. Mais les heures de sommeil, j'avais aucune idée. Quand il était bébé, il dormait tout le temps.
Oui, puis personne ne fait la même affaire. Mais, personne n'a les mêmes heures de coucher, de réveil.
Mais arrive à 4-5 ans où là, ton enfant te supplie de dormir plus tard. Puis là, tu te dis, t'es peu, là, tu me supplies, mais là, c'est parce que on se lève à 6h30 demain matin. Tu sais, combien d'heures de sommeil a besoin d'un enfant de 4 ans, 5 ans? Puis c'est la même affaire pour mon gars, mes deux gars à la maison. J'en ai un qui est à 9 ans, puis l'autre qui est à 12 ans. Des fois, ils me disent, papa, le vendredi, on peut-tu faire une nuit blanche? Puis là, je leur dis, oui, mais non. <T'sais>, couche-toi à minuit, mais samedi, tu peux être sûr que tu vas te coucher pas mal plus de bonne heure parce que dimanche, tu vas te coucher encore plus de bonne heure aussi. Mais le vendredi, tu peux te coucher un peu plus tard. Mais les heures de sommeil, est-ce que c'est propre à chacun chez nos jeunes où il y a comme quand même des règles à respecter pour que le développement de leur cerveau puisse suivre son cours de façon normale?
Ce que je trouve intéressant avec le sommeil des enfants, là, c'est que la première chose que je veux dire, là, c'est que le parent est l'expert de son enfant. Donc, oui, c'est vrai qu'il existe des règles ou des choses qu'on peut suivre. Un enfant doit dormir tant de nombre d'heures à tel moment. Sauf que les parents qui nous écoutent savent aussi que, il y a énormément de différences individuelles avec ça, que ce soit s'ils ont eu plusieurs enfants puis ils ne dorment pas tous de la même manière. Donc, au niveau je dirais, faut suivre son enfant. Puis c'est vrai pour le bébé, c'est vrai pour le jeune enfant. Faut s'assurer qu'il va avoir assez de sommeil pour ses besoins. Mais il y a des différences, hein? Il y a des enfants qui ont besoin de plus de sommeil que d'autres. D'ailleurs, il y a des enfants qui vont garder la sieste plus longtemps, ça leur fait du bien. Il y en a d'autres qui en veulent, ils veulent rien savoir. Il y a des bébés qui vont dormir 6 heures à 5 semaines. Puis il y en a d'autres que ça va prendre plusieurs mois. Donc, j'ai vraiment en tête le terme flexibilité, le terme suivre le besoin de son enfant.
Il y a des parents, on dirait, qui sont stressés par le fait que leurs jeunes enfants dorment moins, parce qu'on entend souvent que c'est pendant les heures de sommeil que toutes les informations qu'ils apprennent se consolident. Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Bien, il y a deux aspects, hein. Ils sont stressés peut-être par tout ce qu'on entend, puis les parents se font dire plein de choses qu'ils doivent respecter. La pression est assez forte, mais aussi parce que si l'enfant dort pas, bien là, le parent ne dort pas nécessairement. Puis on sait ce que la privation de sommeil, ça crée, hein. On en a parlé dans d'autres émissions, dans d'autres collaborations, où est-ce que, bien, on est plus irritable, on manque de patience, on cherche nos mots, on s'endort quand on devrait pas. Donc, les parents vivent un peu avec les deux. C'est pour ça que pour le parent, le fait de se reposer, le fait d'écouter aussi son corps. Tu sais, peut-être qu'on était un type de soir avant d'avoir des enfants, puis là, ben, on n'a pas le choix d'aller se coucher à 8h30, 9h le soir parce que l'enfant se réveille tôt. Donc, d'écouter son propre besoin aussi, ça peut faire du bien aux parents.
Qu'est-ce qui est le mieux pour ben, un parent et son enfant au final? Est-ce que c'est d'avoir une routine? Moi, j'ai des gens autour de moi, Maude, là, qu'ils ont décidé que la routine, il n'y a personne qui la bougerait au niveau des siestes puis des nuits. C'est-à-dire que peu importe le temps de l'année, que ce soit Noël, que ce soit à 6h30, les enfants se couchent, ils se réveillent à 6h le lendemain matin. Puis c'est ça, tous les jours de l'année, les siestes sont à des heures fixes, ça ne bouge pas, il n'y a pas d'exception. Et j'ai d'autres gens autour de moi que ben, les enfants suivent les parents, c'est beaucoup plus flexible. Quand ils ont envie de dormir, ils le sentent, ils laissent dormir. Qu'est-ce qui est le mieux pour le développement de ton enfant? Parce que je pense que c'est beaucoup ce qui inquiète par rapport au sommeil.
Je dirais que ça, c'est propre à chacun, hein? Puis il y a autant de styles de parents qu'il y a de parents.
Ouais.
Donc, c'est important de suivre ça avec quoi on est bien. Il y a des gens qui aiment la structure, justement, puis il y en a d'autres qui préfèrent être plus flexibles, comme tu l'as mentionné, Audrey. Donc, de s'écouter, parce qu'un parent qui est bien, puis qui n'est pas trop stressé, puis qui fait qu'est-ce qu'il aime, va être aussi bien avec son enfant. Je dirais que c'est certain qu'en termes de sommeil, une routine, ça aide. On en a parlé, le cerveau répond à la routine. Puis je pense à l'heure du matin, même si d'avoir une heure de matin où est-ce qu'on se lève, qui est toujours la même. Et la routine le soir, elle peut être super importante pour autant pour les bébés que pour les jeunes enfants. On y va du plus excitant au moins excitant. On veut que ça devienne de plus en plus calme. Puis là, quand je dis routine, encore une fois, les parents, ils en ont en masse à penser. Donc, on y va au plus simple. C'est-à-dire que plus la soirée avance, ben justement, plus on fait des activités calmes. On peut avoir notre routine qui a deux, trois éléments, puis on les fait toujours dans le même ordre. Et ça aide l'enfant à se préparer tranquillement au fait qu'il va aller se coucher bientôt. Et je pense à la lumière aussi. Hein, on a tendance à avoir de la grosse lumière dans notre maison, dans la salle de bain. Souvent, c'est très clair. Hein? Assurons-nous, même pour le cerveau des enfants, c'est important de comprendre que la lumière diminue, que bientôt on va aller se coucher. Donc, de diminuer la luminosité dans notre maison aussi, pas juste pour nous, parce que c'est bon pour les adultes aussi, mais pour les enfants, ça peut nous aider.
Docteur Bouchard, neuropsychologue, est-ce qu'on en sait plus sur ce fameux mystère de la vie? La fin de semaine, en fait, du lundi au vendredi, mes enfants se lèvent à 6h20. C'est moi qui les lève et ça me prend un pied de biche pour l'élever de leur lit. Et le samedi et le dimanche, c'est moi qui essaie de dormir et mes enfants se lèvent à 5h45, top shape. Qu'est-ce qui fait que la fin de semaine, les enfants sont plus dynamisés versus la semaine où... Sérieusement, ils veulent juste pas se lever, c'est difficile. Puis je suis pas sûr qu'ils fakent tant que ça. Ils ont l'air vraiment brûlés parce que c'est une journée d'école.
Ben là, vous me posez des grosses questions, puis je suis pas certaine que je vais avoir la réponse à ça. Sauf que, ben, il y a quelque chose d'excitant, hein, la fin de semaine.
Hein?
Et la journée est à nous, on en fait ce qu'on en veut. Donc, est-ce que ça peut jouer un rôle, puis ça fait en sorte que quand on se réveille, on est prêt, puis on veut partir, peut-être. La chose à laquelle je pense, c'est peut-être pas le cas de tes enfants, mais des fois, quand on a de la misère à se lever le matin, ça peut être selon les tâches qu'il y a à faire dans la journée, mais ça peut être aussi, est-ce qu'on a dormi suffisamment? Est-ce qu'on s'est endormi plus tard la veille? Mais sinon, pour le grand mystère, je pense que j'ai pas de réponse à ça.
Il y a encore des adultes qui font des terreurs nocturnes, mais les terreurs nocturnes, il y a beaucoup d'enfants qui en ont fait. Est-ce que tu en as déjà fait, Audrey?
J'en ai jamais fait, puis c'est une question qui revient par texto, là, fait, puis on s'en va vers là,
ouais.
Fait que c'est bien.
Parce que c'est paniquant quand oui. T'entends ton enfant de 3-4 ans gueuler comme s'il y avait ouais. quelqu'un dans sa chambre. Puis là, toi, tu te lèves, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Puis lui, il a vraiment l'impression que ce qu'il a vécu, c'est réellement
ah, oui,
vrai.
Oui.
C'est quoi le texto?
Le texto, c'est Carl qui nous dit, mon fils, qui a maintenant 14 ans, a pendant plusieurs années fait des terreurs nocturnes. C'est causé par quoi? Puis est-ce qu'il y a des séquelles possibles?
C'est super intéressant de parler de terreurs nocturnes parce que, comme vous l'avez mentionné, là, quand on ne connaît pas ça, qu'on ne sait pas que ça existe, puis qu'un enfant fait une terreur nocturne pour la première fois, c'est super traumatisant pour les parents. C'est intense, une terreur nocturne. Donc, c'est des enfants qui vont je dis se réveiller, mais pas vraiment. Hein. Ils sont un peu dans un entre-deux. Ils ont une réaction de peur, des fois, extrême. Ils peuvent crier, ils peuvent se débattre, ils peuvent pleurer. Ils ont l'air d'être en détresse. C'est pendant le sommeil. Ces terreurs nocturnes-là, ça se passe pendant un stade de sommeil qu'on appelle le sommeil lent profond. Le sommeil lent profond, on en a plus en début de nuit. Donc, généralement, les terreurs nocturnes, ça va arriver dans le premier tiers de la nuit chez les enfants. Et ce n'est pas la même chose que les cauchemars. Les cauchemars, ça se passe pendant le sommeil paradoxal. C'est souvent plus vers la fin de la nuit. Et un cauchemar, on peut se rappeler du contenu d'un cauchemar. Il y avait un monstre qui nous faisait peur. L'enfant va être capable de. Il va être réveillé après le cauchemar. Il va être capable de raconter son cauchemar. Ce n'est pas le cas pour les terreurs nocturnes. Les terreurs nocturnes, l'enfant ne se rappelle pas de qu'est-ce qui est arrivé. Les parents, ce qu'ils vont dire des fois, c'est que c'est difficile de rejoindre l'enfant. Des fois, c'est difficile de le réveiller ou de savoir s'il est réveillé ou non. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui vont faire des terreurs nocturnes parce que du sommeil lent profond, quand on est jeune, on en a en masse, un peu moins quand on vieillit, puis il est moins profond. Donc, c'est pour ça que ça se passe. Et il faut savoir que ce qui peut exacerber les terreurs nocturnes, le manque de sommeil, la privation de sommeil, des changements d'horaire, l'enfant s'est couché plus tard ou l'enfant a arrêté de faire sa sieste, par exemple, dans l'après-midi. Donc là, la pression de sommeil augmente. Il y a plus de sommeil lent profond. Il y a plus de terreurs nocturnes. Le stress aussi peut venir jouer un rôle et augmenter là, le nombre de terreurs nocturnes. Si ça peut laisser des séquelles, je ne crois pas, mais c'est pas plaisant à vivre.
Non, est-ce qu'il y a des recherches qui ont été faites sur le sommeil de nos enfants? Parce que il y a des trucs qui se vendent, là, pour ne pas les nommer, sur Amazon, là, des couvertures qui sont plus lourdes pour que l'enfant se sente peut-être un peu plus enveloppé, un peu plus en sécurité.
Ouais, c'est magique,
est-ce
ce que
c'est.
Ah oui? Ah, moi, j'en ai une.
T'en as une? Tu sais, puis des fois, c'est pas grand-chose. C'est une couverte de 20 livres, 30 livres, mais ça fait une différence quand c'est sur toi. Puis chez certains enfants, ça semble fonctionner. Y a-tu des recherches qui ont été faites à ce niveau-là?
Il y a des recherches, oui, sur le sommeil des enfants. Puis je sais qu'au niveau des couvertures lourdes, chez certaines populations cliniques, donc qui ont certains troubles, après, on retourne à quelque chose qui est important, c'est-à-dire le confort, de se sentir bien. Puis c'est vrai pour son lit, pour sa chambre, pour son environnement, pour ses couvertures. C'est vrai pour l'adulte et c'est vrai pour l'enfant. L'enfant, il a besoin de se sentir bien. On garde un petit peu les mêmes principes, c'est-à-dire qu'on veut que la chambre soit un petit peu fraîche, on veut que ça soit propre, on veut qu'il n'y ait pas trop de lumière non plus. Après, chez les enfants, c'est un peu différent. Des fois, on veut une petite veilleuse ou quelque chose comme ça. Fait qu'assurons-nous que ça ne fait pas trop d'éclairage non plus parce que leur cerveau répond, hein, lui aussi, aux indices lumineux. Quand on parlait des rythmes circadiens, puis le fait de s'exposer à la lumière le matin, puis de diminuer la lumière en soirée, bien, c'est parce que cet indice-là, ça vient parler à notre cerveau directement, ça vient dire au cerveau de sécréter les hormones, soit d'éveil ou de sommeil. Donc, chez les enfants, c'est aussi un bon truc de s'exposer à la lumière le matin puis de la diminuer le soir. Et oui, d'être confortable.
Je vais te poser des questions par rapport aux phases de sommeil. Bon, t'en as parlé tout à l'heure, sommeil profond, sommeil fondamental, le paradoxal, puis t'as aussi du temps d'éveil. Puis il y a aussi le fait qu'il y a des enfants qui bougent énormément pendant la nuit. Mm. Moi, mon plus vieux est exactement comme moi. S'il s'endort sur le dos, il va se réveiller sur le dos, puis il ne bouge pas. Et mon plus jeune, là, c'est
il tourne d'un bord puis de l'autre.
Anti-horaire. des fois, il est pied à 11 heures, des fois, il est pied à 2 heures. Il se promène dans son lit tout le temps. Parlons en premier des phases de sommeil. Est-ce que les bébés, les plus jeunes, ont plus besoin de sommeil profond, plus de fondamental, de paradoxal? Comment on détermine ça? Y a-t-il moyen de le calculer?
En fait, là, ce qu'on sait, c'est que un bébé, ça ne dort pas comme un enfant de 4 ans, puis un enfant de 4 ans, ça ne dort pas comme un ado. Les stades de sommeil qui font partie de leur moment de sommeil, puis éventuellement leur nuit de sommeil, ne sont pas les mêmes. Donc, le bébé, c'est moitié-moitié. Il passe beaucoup plus de temps en sommeil paradoxal que l'enfant puis l'ado. Puis éventuellement, il va consolider. Puis des bébés, ça dort par période. Au début, généralement, par chunk, j'ai envie de dire, là, ça dort un petit peu, ça se réveille, ça dort un petit peu. Puis là, éventuellement, ça peut consolider une période de sommeil la nuit. Et là, ça va faire une sieste le matin, une sieste l'après-midi pour la plupart. Éventuellement, la sieste du matin, elle ne sera plus nécessaire. On garde la sieste d'après-midi. Puis éventuellement, même la sieste d'après-midi va partir. Et là, on consolide vraiment une période de sommeil pendant la nuit qui va tranquillement ressembler un petit peu plus à ce qui se passe dans l'adolescence puis à l'âge adulte. Et bon, le sommeil change tout le temps, dans le fond, hein? D'un bébé à un ado à une personne plus âgée, ça change. Puis je pense même aux ados aussi, parce qu'on n'en parle pas souvent, les ados, puis de leur sommeil. Ils ont besoin de beaucoup de sommeil, nos adolescents. Et ils
ne sont pas lâches, là.
Ben non, ils ont besoin de dormir. Faut les laisser dormir.
Je me souviens de ma mère qui surveillait si j'étais encore en vie avec mon bâton de hockey. Elle prenait mon bâton de hockey, puis avec la pointe du bâton de hockey, elle poussait pour voir si j'allais avoir une réaction.
Il y en a qui dorment jusqu'à midi, 13
heures. Ah oui, il n'y a pas de problème. 14 heures, 15 heures, pas de trouble.
Fait que c'est normal, mon.
Bien, c'est assez normal. Par contre, ils sont privés de sommeil, nos ados. Je vous explique pourquoi. Pendant l'adolescence, là, il y a ce qu'on appelle un retard de phase. Et ça, là, ça a été étudié, on le sait, le cerveau, avec ce qui se passe à ce moment-là. L'ado, là, naturellement, si on le laissait faire ce qu'il veut, il se coucherait tard puis il se lèverait tard. C'est pas tout le monde, il y a des différences interindividuelles, sauf que pour la plupart, il y a vraiment ce retard de phase-là. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bien, ils commencent l'école super tôt. Donc là, puis il y a des études qui se passent aux États-Unis, à d'autres endroits dans le monde où est-ce qu'ils ont retardé l'heure de début d'école pour les adolescents pour voir justement si on était capable qu'ils soient moins en privation de sommeil, ces jeunes-là, parce que la privation de sommeil, on parlait que ça a un impact sur notre cerveau, mais ça a un impact sur notre santé aussi, sur notre santé mentale. Donc, ça peut amener des symptômes dépressifs, des symptômes anxieux. Et là, on a une population qui commence très tôt, mais qui, naturellement, leur horloge biologique les ferait se coucher tard et se lever tard. Donc, la fin de semaine, quand ils dorment plus longtemps, c'est non seulement à cause du retard de phase, mais aussi parce qu'ils ont probablement manqué de sommeil pendant la semaine, puis là, ils sont en train de rattraper.
Okay. Fait qu'arrêtons de taper sur la tête de nos adolescents qui dorment jusqu'à 13 heures.
Les bébés qui bougent beaucoup, puis les jeunes enfants qui bougent beaucoup, là, la fameuse hormone là, qui est libérée dans le cerveau pour justement rendre le corps pratiquement raide et quasiment impossible à bouger. Pourquoi il y en a qui l'ont dès la naissance, puis il y en a d'autres qui l'ont pas pantoute, ça? Parce que moi, je bouge pas pendant la nuit. Hein. Je ne bouge pas pantoute, puis on me dit que c'est parce que mon cerveau fonctionnait normalement. Et ça, c'était ma plus grande surprise.
Wow.
Mais quand le docteur me dit ça, je me suis dit, si c'est un docteur qui me dit ça, je dois prendre ce compliment-là. Mon cerveau fonctionne normalement. mais il y en a d'autres qui bougent d'un bord, de l'autre. C'est quoi qui fait? C'est-tu un dysfonctionnement du cerveau? Ils peuvent-tu prendre quelque chose pour compenser?
Bien, pas nécessairement, puis il faut savoir qu'à travers la nuit, hein, il y a différents stades de sommeil et il y a des stades dans lesquels on bouge plus que d'autres. Je pense, tu sais, on a vraiment deux grandes catégories, le sommeil paradoxal, on en a déjà parlé, puis l'autre catégorie, c'est le sommeil lent. Et dans le sommeil lent, il y a différents stades de profondeur, donc quand on s'endort, on est en stade 1, puis le sommeil lent profond, bien, c'est du stade 3. Okay. En stade 1, tout ça, il y a plus d'activité musculaire, on bouge plus. Par contre, ce que tu mentionnes, c'est qu'en sommeil paradoxal, il y a vraiment quelque chose qui se passe où est-ce que nos muscles deviennent atoniques, en fait. Et l'idée avec ça, c'est qu'on ne puisse pas agir nos rêves, hein, parce qu'on rêve pendant le sommeil paradoxal. Puis si on rêve qu'on est en train de courir puis de voler, ça va un peu être plate pour notre sommeil si on se met à faire ça. Donc, effectivement, on bouge beaucoup moins dans ce stade de sommeil-là. On a des mouvements des yeux, par exemple.
Oui.
Puis d'ailleurs, hein, je vous disais que le sommeil paradoxal, il y en a plus chez les petits bébés. Mais vous avez peut-être déjà vu ça. Un petit bébé, les yeux en dessous des paupières se mettent à
Oui.
bouger. C'est parce qu'ils sont dans ce stade de sommeil-là. Mais le reste du corps bouge moins. Par contre, il peut y avoir des petits twitchs musculaires, des petits. Mais règle générale, on bouge moins là. C'est dans les autres stade de sommeil, des fois, qu'on va bouger un petit
Ouais,
peu
on a
plus.
tous déjà eu un conjoint ou une conjointe qui donne des coups là, pendant
Ah,
son
mon Dieu,
sommeil.
oui.
On a tous
Oui.
déjà eu ça.
Les yeux ouverts.
Et là, c'est parce qu'ils sont réveillés ou endormis. S'ils donnent des coups réveillés,
Ah,
que ça
c'est par
gagne.
exprès?
Peut-être,
Ouais,
je
elle
ne sais
s'excusait à
pas.
chaque fois, mais je pensais que c'était dans son sommeil.
Maude, le somnambulisme chez les enfants, on dirait que c'est encore plus troublant que les adultes, là.
J'ai pissé dans le garde-robe chez nous, moi.
J'en doute pas pantoute, mais
J'avais
tu sais.
8 ans, je pense.
Ton petit, c'est ça, ton petit qui a 5, 6, 7, 8 ans, qui est somnambule, comment tu gères ça? Tu sais, il y en a qui disent, faut pas que tu le réveilles, faut pas. Comment tu gères ça?
Ben, le somnambulisme, c'est effectivement, il y en a plus chez les enfants à cause de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a plus de sommeil lent profond chez les enfants. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui vont peut-être être somnambules plus jeunes, puis en vieillissant, vont arrêter de l'être. Il y a des adultes qui vont quand même l'être. Et donc, ça se passe dans le sommeil lent profond, encore une fois, premier tiers de la nuit, généralement. Et ça peut être très simple. Et ça peut être très complexe, c'est-à-dire il y a des enfants qui peuvent vraiment bouger, se lever. Comment on intervient, là, ça ressemble un petit peu aux terreurs nocturnes, c'est-à-dire c'est comportemental. On va mettre des choses autour pour essayer qu'il y ait le moins possible de ce type de somnambulisme ou de terreur nocturne, par exemple. Et pour ça, on fait attention à la privation de sommeil. Parce que quand on est privé de sommeil, suite à ça, là, notre cerveau, il intensifie le sommeil. Il va créer plus de sommeil lent profond à cause de la privation. Et donc, si on a un enfant qui est propice à faire du somnambulisme ou même des terreurs nocturnes, bien, ça se peut qu'il en fasse à cause de ça. Donc, un horaire de sommeil assez régulier, s'assurer que l'enfant a assez de sommeil. Peut-être qu'il a besoin, tu sais, si on parle des plus jeunes enfants qui ont encore besoin de la sieste en après-midi, hein, des fois on se dit, ah, je vais enlever la sieste en après-midi, il va peut-être mieux dormir le soir. Mais là, on a une recrudescence des terreurs nocturnes ou des épisodes de somnambulisme parce qu'il manque de sommeil. Donc, c'est important, je pense, d'écouter ça. Si l'enfant se couche plus tard, ça se peut aussi que ça ait des impacts comme ça. Donc, on fait attention à la privation de sommeil. Est-ce que c'est une période plus stressante aussi? Tu sais, est-ce qu'on a, parce que ça aussi, ça peut augmenter la présence de ces troubles-là. Et voilà, donc des choses comportementales qu'on peut faire autour. Si c'est un problème qui est très présent puis qui nous stresse énormément parce que justement les comportements sont importants ou on doit s'assurer que c'est sécurisé, que la maison est sécurisée, que la maison est barrée, tout ça. Mais on peut aussi consulter son médecin puis en parler de ces troubles de sommeil-là. Hein. Ça existe des cliniques de sommeil, ça existe des médecins spécialisés, des psychologues spécialisés quand le trouble de sommeil est peut-être trop important.
Fait que tu barres pas la porte de chambre de ton enfant, là.
Mais en fait, avec le somnambulisme, c'est juste qu'il y a vraiment, hein, il y a des enfants qui sortent dehors, là.
Ouais, mais moi
Des enfants
j'allais.
qui, donc, on veut s'assurer que leur environnement est sécuritaire.
Exact. Moi, en Beauce, là, j'avais mis
Donc, ben,
sur
les peurs,
la porte arrière, elle se barrait assez facilement, puis c'était impossible pour un enfant de l'ouvrir. Mais la porte avant, tu avais juste à tourner la clenche. Puis à partir du moment où je me suis aperçu que mes gars étaient capables de tourner la clenche puis sortir eux-mêmes la maison, ben j'ai mis un loquet, là, juste plus haut, autour de 6 pieds, mettons, là. Puis bon, là, c'était rendu complexe parce que la mère des enfants n'était pas capable de l'atteindre. Mais c'est pas grave, quand j'y parlais, elle pouvait pas se sauver. Mais j'avais mis un loquet supplémentaire pour empêcher mes gars de sortir parce que, comme elle dit, il y a des enfants qui sortent de la maison, puis nous autres, on avait le lac qui était juste à côté du chalet.
c'est
Fait que
capoté.
tu veux pas retrouver tes enfants dans le lac à 6 h le matin. Vas-y.
Il y a un texto qui est entré pour savoir qu'est-ce que tu penses, Maude, des horloges gros cloques. Tu sais, les espèces d'horloges, là, que là, il y a un soleil, puis il y a une lune, là, puis l'enfant peut pas sortir tant que c'est pas un soleil, là, puis.
Oui, ben en fait, je pense que c'est un outil qui est intéressant quand on est en train d'apprendre à l'enfant à se lever à une certaine heure. Puis des fois, l'enfant va se réveiller plus tôt. Puis là, il apprend avec cette horloge-là qu'il lui reste tant de temps. Donc, un enfant, ça a besoin de comprendre son environnement, ça a besoin de justement d'informations simples comme quoi, OK, mais je sais que quand ça tourne par exemple au rouge ou quand le soleil arrive, mais là je peux me lever. Donc il y a plein d'outils comme ça pour les parents. Puis Comme je disais, on utilise ce avec quoi on est confortable puis ce qui marche bien pour nous.
Est-ce qu'il y a un lien avec la santé mentale puis les troubles du sommeil chez nos enfants pour leur développement comportemental?
Bien, certainement. On l'a dit en tout début, tout le monde dort. Les humains ont besoin de sommeil et il y a une relation bidirectionnelle entre le sommeil puis la santé mentale. Ce que je veux dire par là, c'est que si on a un trouble de sommeil ou on ne dort pas suffisamment, il y a beaucoup de privation de sommeil, bien, ça pourrait faire en sorte d'avoir des troubles de santé mentale. Mais le contraire est aussi vrai. Si on a des troubles de santé mentale, ça se peut que ça le manque l'insomnie ou l'hypersomnie ou d'autres troubles de sommeil, bien, ça soit un symptôme de ces problèmes-là. On a besoin de dormir. Donc, s'il y a un trouble de sommeil, si on. Puis là, on parle des enfants depuis tantôt, là. Il peut y avoir des régressions, ça change tout le temps le sommeil d'un enfant. C'est vrai avec les bébés, c'est vrai avec les jeunes enfants. Par contre, si ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, puis vous sentez qu'il y a un problème qui est persistant, c'est correct de demander de l'aide aussi, puis d'aller trouver les bons experts pour vous aider. Vous êtes l'expert de votre enfant, mais des fois, d'avoir des informations sur justement ou des outils sur quoi faire, ça peut vous aider. Parce que, ben oui, hein, on veut Puis, on ne veut pas nécessairement qu'ils fassent toute leur nuit ou qu'ils dorment parfaitement, mais on veut sentir qu'ils dorment suffisamment pour qu'ils puissent bien fonctionner finalement durant leur journée.
Les parents épuisés par le manque de sommeil de leurs enfants ou les jeunes parents, les bébés dorment pas. Comment tu gères ça avant de péter au frère?
Ben, les jeunes bébés, c'est plus facile parce que tu fais des sommes avec eux autres l'après-midi. Moi,
ouais.
Le samedi, le dimanche, c'est bien quelque chose qui me manque du moment où mes gars étaient bébés. C'était bête de dormir avec eux autres sur le
Mais
divan.
Mais tu sais, les nuits sectionnées,
en
il y en a
écoutant
pour
les
qui
petits
ça fait pas?
comiques, ouais, t'alternes. Père, mère, père, mère, t'alternes. Tu vires fou sinon.
Mais c'est vrai, l'alternance, puis j'ai deux mots qui me viennent en tête. J'ai récupération, fait qu'il faut trouver des manières de récupérer, que ce soit des moments de repos, des journées plus relaxes, oui, des siestes. Puis des fois, c'est pas toujours possible en même temps que l'enfant dort. Hein. Il y a des parents qui disent, ben oui, on me dit de dormir en même temps que l'enfant, mais j'ai 8 brassées de lavage à faire. Donc, mais peut-être que c'est possible à un autre moment, même si c'est juste un 15-20 minutes. Puis flexibilité. On suit, quand c'est des jeunes bébés, on va suivre leur horaire à eux. Et comme je disais, il y a des différences. Ça se peut qu'ils ne fassent pas ces nuits tout de suite, ça se peut qu'ils les fassent très, très tôt, mais on essaie de suivre ça puis d'écouter son propre corps. Des fois aussi, si on est deux parents, il y a peut-être un parent qui a besoin de moins de sommeil que l'autre. Il y a peut-être un parent qui a plus de facilité avec le matin que l'autre. Il y a peut-être, donc c'est vraiment un travail d'équipe, je pense, où on peut soit s'alterner ou trouver qu'est-ce qui fonctionne mieux avec l'un ou l'autre. Puis pour la somnolence, là, en tant que telle, parce qu'il va en avoir, on ne s'en sortira pas. L'exercice physique, ça peut aider de bouger dehors, de prendre une marche dehors, même si c'est juste un 15 minutes. La lumière, le matin, encore une fois, exposez-vous à la lumière le matin, ça peut faire du bien. Repos, sieste, on en a parlé. Du social aussi, des fois, quand on sait qu'on est vraiment somnolent, de voir des amis ou d'inviter des gens, de parler, ça peut nous aider. Puis la caféine. Regarde, la caféine, là, ça a été inventé pour une raison, donc ça peut nous aider à passer à travers des fois des périodes qui sont un peu plus difficiles la nuit avec les enfants.
Il y a un texto, Maude, qui est entré. Puis là, on n'est plus vraiment dans tout ce qui est parents-enfants, mais il y a quelqu'un qui nous dit, en faisant mes propres recherches, je pense que j'ai eu quelques épisodes de paralysie du sommeil. On a déjà effleuré le sujet dans d'autres chroniques ensemble. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être fréquent? Puis comment on peut gérer cette situation-là?
Ouais, ben puis la paralysie du sommeil là, c'est pas le fun à vivre. Je sais pas si l'avez-vous déjà vécu vous
Moi,
deux?
j'ai vécu deux épisodes. La première était terrifiante. La deuxième était plus une rencontre du troisième type. C'était plus j'explorais.
T'explorais.
Parce que je savais ce qui se passait. Fait que j'essayais de bouger mes bras, j'essayais de bouger mes jambes. Je trouvais ça très drôle. Là, j'essayais de voir si. Je savais que j'avais les yeux fermés, mais j'essayais de voir si j'étais capable d'ouvrir les yeux. J'étais pas
Oh
capable
mon
de le
Dieu!
faire. C'est paniquant, puis t'as l'impression, Maude, tu sais, que ces événements-là, ça dure 45 minutes. T'as l'impression que ça dure 1 heure et demie, tellement que ça a l'air long. Mais en réalité, c'est quoi? Quelques secondes, tout simplement, moins d'une minute, là, la paralysie du sommeil.
C'est généralement assez court, puis des fois, ça peut venir avec des hallucinations. On appelle ça des hallucinations hypnagogiques ou
Ouais.
hypnopompiques, selon si c'est à l'endormissement ou au réveil. La paralysie du sommeil, c'est un état. Tu sais, tantôt, je parlais de sommeil paradoxal, puis je disais que nos muscles sont complètement atoniques. Il n'y a pas d'activité musculaire. Donc, ça se passe pendant le sommeil paradoxal. Après le sommeil paradoxal, il y a généralement un éveil, parce qu'un cycle de sommeil vient de se terminer. Et souvent, le matin, par exemple, quand on se réveille, bien, on était en sommeil paradoxal avant, parce qu'il y en a beaucoup vers la fin de la nuit. Et là, la paralysie du sommeil, là, c'est comme un phénomène qui s'insère entre le sommeil paradoxal et l'éveil. C'est comme si le cerveau est en train de se réveiller, mais l'atonie des muscles du sommeil paradoxal reste, et donc on n'arrive pas à parler, à bouger, à ouvrir nos yeux. Et ça peut être effectivement très, très angoissant, surtout que, comme je disais, des fois, ça vient avec des hallucinations. Donc, on entend quelqu'un est en train d'essayer de rentrer dans notre maison,
Ah,
venir nous
mon Dieu
attaquer,
Seigneur.
on entend, et on n'est pas capable de réagir à ça. Donc, je pense que de savoir que c'est un phénomène qui peut être normal, que les gens peuvent vivre, déjà, ça nous déstresse parce qu'on se dit, OK, la première fois, on ne le sait peut-être pas, mais après, on le sait. Et encore une fois, la privation de sommeil, ça peut exacerber, ça peut augmenter la présence de ces phénomènes-là. Donc, même chez l'adulte, là, de savoir que ben, si on a été privé de sommeil pendant un petit bout, si on s'est couché beaucoup plus tard, ben, si on a tendance à faire ça, ça se peut qu'il y en ait un petit peu plus.
Puis, pas de façon de gérer ça de manière rapide et facile.
Non. Mais
Bon,
ça dure 45 secondes.
dormir
C'est
suffisamment.
épouvantable. Ouais. Hey Maude, ça va être la dernière question parce que c'est une auditrice qui m'a écrit. C'est une femme d'affaires. Elle s'appelle Sandrine. Elle, à chaque mois, elle doit faire un voyage de plusieurs jours où elle quitte pour l'Europe et par la suite, c'est l'Asie. Et après ça, après l'Asie, bien, elle revient au Canada puis elle me parle constamment du jet lag. Elle a toujours l'impression qu'elle. Elle est fatiguée, elle n'est pas capable de reprendre son sommeil. Elle a toujours l'impression d'avoir une dette de sommeil. Puis elle a dit, est-ce que tu peux demander au docteur en neuropsychologie, Maude Bouchard, c'est quoi le meilleur moyen de se sortir du fameux jet lag? Puis pour certains, ça a l'air bien simple, là, mais si vous allez, des fois, vous allez au Mexique, il y a
Non,
une
t'as
heure,
raison.
il y a une heure de décalage. Là, des fois, tu dis, tabarouette, on dirait que ça fait une différence, 60 minutes. Mais pour ceux qui s'en vont vers l'Europe ou pour ceux qui s'en vont vers l'Asie, quand ils reviennent au Canada, c'est complètement le monde à l'envers, Maude. C'est quoi la meilleure façon de s'en sortir du fameux jet lag?
Bien, déjà, là, la première chose, c'est que c'est normal d'avoir une certaine fatigue associée à ça parce que cette personne-là challenge son horloge biologique à tous les mois, tout le temps. C'est la même chose avec les gens qui ont des horaires atypiques, par exemple, puis qui ont besoin de faire des corps rotatifs. Donc, il y a une certaine fatigue qui est normale et ça a un coût, ça. Donc, de voyager, d'aller à quelque part où il y a 6 heures de décalage. On ne peut pas en une journée tout d'un coup être bien correct. Par contre, c'est vrai qu'on peut mettre des choses en place pour s'aider. D'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qu'on fait en clinique aussi, hein, accompagner les gens avec leur réalité spécifiquement, puis de trouver des solutions spécifiques à leur situation. J'ai en tête mélatonine, lumière, exercice physique, tout ce qu'on utilise comme outil, même sieste des fois, tout ce qu'on utilise comme outil avec aussi les travailleurs, les travailleuses aux horaires atypiques, selon qu'est-ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Donc, quand on fait de l'exercice physique, quand on s'expose à la lumière, c'est parce qu'on veut réveiller notre corps. Donc, selon où est-ce qu'on s'en va, ben si il est 6 heures du matin, où est-ce qu'on s'en va, mais que dans notre tête, il est minuit. Bien là, à 6 heures du matin, on va vouloir bouger, on va vouloir s'exposer à la lumière de l'endroit où est-ce qu'on est présentement. On peut utiliser la mélatonine aussi. Petite dose, vérifiez avec votre médecin, votre pharmacien que c'est correct de l'utiliser, surtout si vous prenez d'autres médicaments, mais la plus petite dose. Et la mélatonine, on va l'utiliser 2 heures avant l'heure qu'on souhaite s'endormir. Donc, encore une fois, si on a voyagé, notre tête, notre cerveau, il n'est pas à cet horaire-là, mais on peut, avec la mélatonine, peut-être essayer plus rapidement de l'aider. Des courtes siestes, parfois, si on est très, très, très somnolent et qu'on n'arrive pas à fonctionner, mais juste plus court parce que si c'est trop long, ben là, on va avoir de la misère à rattraper le nouvel horaire. Donc, c'est plein d'outils comme ça qu'on met au bon moment pour s'assurer qu'on est capable de prendre le nouveau rythme. Mais c'est ça, c'est du cas par cas, hein, selon où est-ce qu'on s'en va, combien de temps on reste là, après ça, est-ce qu'on revient? Donc, mais il y a des choses à faire, certainement.
Maude Bouchard, c'est toujours un plaisir de te jaser. Ce sera pour une prochaine fois. Je te souhaite de passer une belle semaine.
À vous autres aussi, merci.
À la
Alors, merci
prochaine.
d'avoir été là. Maude Bouchard est neuropsychologue. Elle est spécialisée dans le sommeil. C'est une personne à qui on adore jaser. C'est ça, la jeune femme qui m'a écrit, c'est une femme d'affaires. Se promène en Europe. Et par la suite, elle va en Asie, puis après ça, elle revient au
C'est des
Canada.
méchants décalages,
Puis ce qu'elle me
celui-là.
racontait, c'est que des fois, elle sait même plus si on est lundi ou mardi.
Ouais. Ouais. Elle est tout perdue,
Elle est tout
normal.
perdue. Moi, ça m'est arrivé des épisodes de ma vie où je travaillais énormément avec le cégep au travers, là.
Ouais.
Puis j'étais parti, j'avais J'avais 16 ou 17 ans. Je pense que j'avais 17 ans. J'étais au cégep. Fait que j'avais 17. Puis j'étais parti de chez nous à 6 heures le, ouais, 6 heures le matin. Faut pas que je me trompe. C'était l'hiver. Fait que je suis parti à 6 heures le matin.
OK.
Puis je trouvais que c'était quand même relativement tranquille sur les routes. Puis là, j'arrive pour mon quart de soir chez Ronald McDonald. Puis là, je rentre dans le McDo, puis là, je vois que c'est l'équipe du matin qui est là. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font encore là?
Tu t'étais trompé?
Je pensais
okay,
que je me réveillais 12 heures plus tard. J'étais complètement
mêlé. T'étais
défoncé. Tu sais, j'ai pris mon baiser capital. Je partais de... J'habitais à côté de ce jeune de Limoilou. Pars en baiser capital. Je m'en vais au McDo. Tu sais, la noirceur l'hiver, c'est ça. Là.
Mais fait c'est
que,
la base.
Tu vis avec. J'étais complètement déphasé.
On néglige tellement le sommeil parce que pour certaines personnes, moi j'ai souvent entendu on dormira quand on sera mort. On dormira quand on sera mort, là, ça se néglige bien du sommeil. C'est là que tu récupères du temps. Tu te dis je vais me coucher plus tard, me lever plus tôt pour faire mes affaires. Puis... Mais moi, là, je sais pas toi, mais je réalise plus le temps avance dans la vie que si j'ai pas mon 8 heures de sommeil, attache-toi. Je suis pas de bonne humeur, j'ai de la misère à fonctionner, je suis perdue.
C'est ça que t'avais à matin.
Oh, hey, je suis folle de bonne humeur.
Johnny qui dit, est-ce que c'est vrai que travailler avec des horaires rotatifs diminue l'espérance de vie? Ben moi, ce que j'ai vu comme étude, c'est que les travailleurs de nuit diminuent leur espérance de vie.
Ben c'est sûr, tu vas à l'encontre de ton cycle naturel.
Ouais. Mais moi, je peux pas dire ça, mais c'est une étude, ben, une ou deux études que j'ai lues à travers le temps qui mentionnaient que tu réduisais ton espérance de vie au même titre que la cigarette, au même titre que l'alcool à profusion. Là.
Parce que c'est la base. C'est comme l'exercice physique. Il y a beaucoup d'études qui sont sorties là-dessus aussi, que si tu prends pas le temps de travailler ton corps au fil des années, tu vas vivre moins longtemps.
Ah, je travaille mon corps. Je sculpte.
Ton corps.
Je sculpte mon corps. Hey, le 14 juin prochain au Parc de la Chute Montmorency, c'est la 15e édition du défi Kilimanjaro à Québec, organisé par la Fondation du Chute Québec.
C'est tellement hot.
Le défi, c'est assez simple. C'est en équipe, vous allez devoir faire 60 montées des escaliers, 29 220 marches, les amis, soit l'équivalent de la célèbre montagne africaine, et vous engager à amasser des dons pour la recherche en neurologie. D'autres, on a Pascal CV qui va aller gravir le
vrai
mont
de vrai.
Kilimanjaro. Même si Denis Gravel pensait qu'elle l'avait déjà fait.
Hey, ça, là!
Quand on parlait du manque de sommeil.
Oui, oh, ouais, Denis, ça l'a rattrapé.
Donc, est-ce que vous avez envie de relever le défi en famille? Moi, ça va être le cas avec les gars. Je vais leur proposer. C'est le mini Kili qui est ouvert pour tous les enfants de moins de 13 ans et l'heure de départ est prévue pour midi. Il s'agit d'un défi amical, sans compétition ni objectif de levée de fonds, qui consiste à faire une montée avec ou sans les parents, en famille, entre amis ou entre collègues. Ça se passe le samedi 14 juin prochain au Parc de la Chute Montmorency. Venez soutenir la recherche en neurochirurgie. Il y a plusieurs festivités et prix de participation sur place qui vous attendent pour célébrer les 15e anniversaires. Ensemble, on va faire ça. Fondationduchutdequebec.org. Fondationduchutdequebec.org pour en savoir plus sur ce bel événement. Et à ce qu'on me dit, c'est que monter des marches, ça fait des belles fesses.
Il paraît.
C'est ce qu'on me dit.
C'est ce que je fais, moi, le plus possible au tonic. Je monte du Stairmaster. Ça marche pas mal. Dans le retour.